Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Charles Bonaparte, il descend Napoléon par la branche issue de Jérôme, le plus jeune frère de l'empereur. 2021, c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Et le 15 août, donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa naissance en 1769. Et pour le célébrer, voici le témoignage de celui qui a choisi de s'appeler Bonaparte plutôt que Napoléon. Tout de suite, dans ses clés d'une vie.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Bonjour Charles Bonaparte.
Bonjour.
Il y a ce livre, La Liberté Bonaparte, qui sort chez Grasset. Nous sommes dans l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Et vous, vous êtes tout de suite, on va le préciser, l'aîné des Napoléons, aujourd'hui par la branche Jérôme, l'un des frères de Napoléon.
C'est ça, oui. Par facilité, les gens disent que je descends de Napoléon. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque je descends de son frère cadet, Napoléon n'ayant pas d'héritier, en tout cas légitime, avec des grandes guillemets, donc à ce jour.
Alors, on va évoquer Napoléon et puis aussi votre vie. On va mélanger les deux à travers des dates clés. Et la première, ben, elle ne vous concerne pas directement. C'est le 15 décembre 1778. Je crois que c'est le jour où Napoléon quitte la Corse pour la France, Charles Bonaparte.
Oui, c'est en effet une date très importante qui marque une rupture définitive en réalité avec la Corse, puisque très peu de Bonaparte retourneront en Corse, mis à part moi-même, qui me suis présenté, mais on en parlera peut-être
oui,
tout à l'heure,
sûr,
aux élections municipales à Ajaccio en l'an 2000. Alors, les Bonaparte quittent la Corse à la suite d'un, on peut dire, d'un incident politique entre Pascal Paoli, le grand héros de l'indépendance de la Corse, et la famille Bonaparte, et en particulier donc Napoléon Bonaparte. C'est une rupture qui est en réalité assez difficile à comprendre, parce que, contrairement à ce que dit, à ce que disait en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps l'historiographie officielle de Napoléon, Napoléon Bonaparte se préparait depuis l'enfance à servir Pascal Paoli, dans un projet qui n'était pas du tout un projet français, mais qui était au contraire un projet d'indépendance de la Corse.
Et finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'ils se sont fâchés. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, les Napoléon, les Bonaparte, étaient aussi fâchés avec les Pozzo di Borgo, une autre famille corse.
Tous les Corses sont fâchés entre eux,
oui,
d'une certaine manière. oui, alors c'est pour des raisons, d'obscures raisons qui tiennent à des histoires familiales cuites et recuites d'une génération à l'autre, mais qui en effet aura des conséquences alors beaucoup plus tard, au moment du gouvernement de Napoléon Empereur, puisque le Pozzo di Borgo, le fils du Pozzo di Borgo en question, deviendra ministre des Affaires étrangères du tsar de Russie. Donc il sera, on peut dire, nettement opposé, frontalement opposé à la politique de Napoléon. Mais à l'époque, ce sont encore des rivalités familiales.
Voilà. Les Bonaparte sont, je crois, présents en Corse depuis 9 générations déjà.
Oui, c'est une famille qui vient en fait avec l'envahisseur génois. Ce sont des gens qui viennent de Sarzane, en Corse. Et le premier Bonaparte connu donc, arrive dans les années 1500-1520. Et il est cavalier arbalestrier dans les troupes de l'office de Saint-Georges. L'office de Saint-Georges avait été en quelque sorte chargé de gouverner la Corse pour le compte du gouvernement génois.
Et alors, il se trouve que quelqu'un a été très important dans les jeunes années de Napoléon, c'est sa mère qui lui a appris, et vous le dites dans votre livre, le Charles Bonaparte, c'est la frugalité.
Oui, en effet, c'était une famille assez connue du centre de l'île. Mais c'était une personnalité très, très corse. La Corse était un pays pauvre à l'époque. Et les Bonaparte, les racines des Bonaparte, sont du côté de familles modestes. Certaines notables, d'autres alliées avec des familles corses qui ne sont pas nécessairement des grandes familles corses. Et donc, il y avait cette habitude de la frugalité qui caractérise, au fond, les paysans de Corse, qui ne sont jamais vraiment à l'abri d'une mauvaise récolte, d'un mauvais temps, etc. Et donc Laetitia était en effet une femme frugale. Parfois, certains ont dit que ça allait plus loin que ça, qu'elle était radin, en quelque sorte, hein, qu'elle était proche de ses sous, qu'elle comptait.
Quant au petit Napoléon, à l'école, c'est pas vraiment la gloire. Il n'est pas un très bon élève. Il fait l'école buissonnière et mange des confitures.
Oui, c'est un gamin. C'est amusant parce que, quand je serai élu en Corse quelques années plus tard, j'avais des gens qui venaient de France et d'ailleurs de l'étranger, et ils me disaient, mais à quoi pouvait ressembler Napoléon? Alors je disais, écoutez, plutôt que de regarder l'étoile de l'hôtel de ville, je vous incite à aller dans nos quartiers, voilà. Allez dans les quartiers, allez voir les jeunes Corses dans les quartiers, voilà. Napoléon, il ressemblait à ça. C'était un jeune Corse, mince déjà, très vif de caractère, très bagarreur probablement, mais ce n'était probablement pas son trait dominant. C'était déjà quelqu'un de très renfermé en réalité.
Oui, alors il a quand même ensuite beaucoup travaillé. D'abord, il a appris le français à Autun quand il est venu en France. Et il a aussi passé quelques temps à Brienne, où il y a d'ailleurs un musée Napoléon dans l'ancienne école militaire de Brienne, où il a été formé.
Oui, tout à fait. Il a donc Brienne a été sa deuxième étape. Donc il faut bien comprendre que c'était à l'époque des écoles militaires quasiment par définition, parce que au fond la promotion sociale de l'époque passait par d'abord l'appartenance à des familles nobles, ce qui explique d'ailleurs que les Bonaparte aient recherché des titres de noblesse lointains. Pour permettre donc au fils Bonaparte d'être dans ces écoles militaires.
D'ailleurs, c'était pas un très bon élève. Je crois qu'il est sorti avant-dernier de sa promotion.
Exact.
Et on l'appelait la paillonnée.
Ah ben Napoléonnet, oui, parce que Napoléon. Et donc, il avait gardé cet accent corse. Il avait appris le français à l'âge de 9 ans. Et donc, il avait gardé cet accent corse. Et d'ailleurs, il gardera toute sa vie un accent corse. Si bien qu'il ne parlait pas le français de manière habituelle. Et d'ailleurs, non plus l'italien de manière habituelle.
Et puis, bon, il avait plusieurs passions à l'époque. Il avait une passion pour Jean-Jacques Rousseau.
Oui. Oui, Jean-Jacques Rousseau a tenu un rôle très important pour le jeune Napoléon. Il tenait un rôle important pour les Corses en général, parce que Jean-Jacques Rousseau parle dans ses écrits de Pascal Paoli et de la Constitution corse, la première Constitution corse de 1555. Et donc Rousseau voit dans ce mouvement d'émancipation au fond des Corses le retour de la nature et le mouvement vers la liberté.
Oui, le retour à la nature que Rousseau apprenait bien avant les écologistes.
Oui, absolument, absolument.
Alors, vous parlez de Pascal Paoli, il a été effectivement un homme clé de la Corse, et curieusement, en 1756, il a introduit la pomme de terre en Corse. C'est assez étonnant.
Oui. Oui, c'était un homme très ouvert. La Corse était à l'époque ouverte sur le monde, peut-être plus qu'elle l'est encore aujourd'hui. En effet, elle était au contact de toutes les découvertes pommes de terre qui venaient, comme chacun sait, donc d'Amérique.
Alors, quant à Napoléon, au départ, bon, c'est pas un élève formidable, mais pourtant, un professeur lui dit « Vous irez loin si les circonstances vous favorisent ».
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Évidemment. C'était pas évident au départ.
Non, c'était loin d'être évident. Au fond, dans ces familles nobles françaises, enfin parmi ces fils de familles nobles françaises qui étaient ses camarades de classe, c'était un peu le dernier. Il venait d'une province très lointaine, la Corse, très pauvre, et de surcroît qui avait été récemment, depuis peu, occupée par les Français. Oui. Donc il avait peu d'atouts pour lui au démarrage.
Et puis alors, sa première image de bataille, c'est sur les Tuileries, quand les Marseillais arrivent à Paris. D'ailleurs, ils chantent un hymne qu'on a appelé la Marseillaise, parce que ce jour-là, ils sont venus avec cet hymne venu de Marseille, qui a été créé par Rouget de Lisle.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Et ça, c'est une image qui a marqué Napoléon, je
crois. Oui, ça l'a beaucoup marqué, parce que, au fond, à l'époque... Napoléon était un fervent partisan de la Révolution. C'était un jacobin, fervent partisan de la Révolution, et il se trouve confronté, au fond, pour la première fois de sa vie, à la violence incontrôlée d'un peuple en révolte, et donc avec des excès qu'on peut imaginer. Et ça l'a beaucoup choqué.
Et puis, il y a un autre Corse qui a défendu la mémoire de Napoléon. On écoute sa voix. Tino Rossi avec un cœur chantant Napoléon. On l'a appelé le Napoléon de la chanson, c'est pas pour rien.
Ah non, c'est pas pour rien. C'était une voix extraordinaire.
Et aujourd'hui, sa maison natale, la maison où il a vécu, est visitée grâce à son petit-fils qui s'occupe de tout.
Absolument, absolument. Et sa tombe est visitée juste derrière la maison, donc au cimetière d'Ajaccio.
Alors, quand je parle de Napoléon, je parle un peu de vous, parce que vous dites dans votre livre, Charles Bonaparte, que la jeunesse de Napoléon ressemble à la vôtre.
Alors, je ne me compare pas à Napoléon, non. Attention, hein, ça serait vraiment prétentieux et totalement irraisonnable. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que j'ai été, d'une certaine manière, un petit peu comme lui, placé dans des situations de rupture. Voilà. Et donc, j'ai accepté ces situations de rupture et j'en ai porté les conséquences pendant toute ma vie. C'est l'objet de mon livre.
Eh ben, on en reparlera tout à l'heure et en particulier avec d'autres dates. Et la prochaine qu'on va évoquer, c'est le 5 décembre 1897. À tout de suite sur Sud Radio avec Charles Bonaparte.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Charles Bonaparte. La liberté Bonaparte chez Grasset, c'est ce livre dont on va parler, puisque vous êtes pour l'instant le dernier des Bonaparte. Et on va évoquer une autre date importante dans la vie de Napoléon, c'est le 5 décembre 1897. Ce jour-là, à Lyon, c'est la première projection d'un film sur Napoléon, l'entrevue de Napoléon et du pape de Louis Lumière. Vous connaissez ce film ?
Non, je dois dire que je ne le connais pas.
Eh ben, c'est une reconstitution. Napoléon, furieux de voir le pape opposer un refus formel à sa demande, et malgré ses menaces, jette avec colère le papier qu'il voulait lui faire signer et sort de la pièce.
Ah oui, parfaitement. Oui, voilà. Oui, je connais l'épisode, mais je ne connaissais pas le film.
Oui, car Napoléon était attaché à Dieu, ce qu'on ne sait pas toujours, Charles Bonaparte.
Alors, c'est assez complexe. Je serais plus nuancé. Bon, évidemment, la Corse, c'est une île chrétienne, évidemment, de longue date. C'est une île catholique, et même on peut dire que c'est une île qui se rattache directement à l'autorité de Rome, d'une certaine façon. D'ailleurs, ça sera un élément du débat entre Pascal Paoli et la France, d'une certaine façon. Le degré d'adhésion, finalement, à Rome, puisque la France, comme vous le savez, a été longtemps tentée, y compris sous la monarchie, par une forme d'indépendance à l'égard de Rome. Donc une enfance culturellement catholique absolument évident, mais marquée par les idées des Lumières. Charles Bonaparte, son père, était un homme des Lumières. On a une connaissance très précise de la bibliothèque, du contenu de la bibliothèque de la maison natale de Napoléon, que l'on visite aujourd'hui à Ajaccio, dont les livres évidemment ont disparu, mais on sait les ouvrages, et on sait que dans ces ouvrages, il y avait les grands philosophes du siècle des Lumières. Et Charles Bonaparte, d'ailleurs dans des mémoires qu'il a édités, a parlé de son adhésion au siècle des Lumières. Donc les Bonaparte, tout comme Pascal Paoli d'ailleurs, sont des hommes du siècle des Lumières. Et donc, il croit enfant, au fond, assez vite, il croit à la mode de Voltaire. C'est une foi, finalement, qui s'attache plus qui est déjà un peu critique, je dirais, à l'égard des apparences. Qui voit au fond en Dieu un grand métronome, le maître de l'univers. On est très proche, en fait, des idées de Voltaire. Et ces idées-là, je pense que les témoins sont unanimes pour dire que ces idées l'ont quand même marqué toute sa vie, même si à la fin, il finira par recevoir l'extrême onction, etc. Il n'empêche que sa foi est marquée par le principe de la raison. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui permettra de réaliser une de ses œuvres majeures, à mes yeux en tout cas, c'est le Concordat. Le Concordat, c'est une sorte de paix, en réalité, après la Révolution qui avait abrogé purement et simplement, et qui avait même parfois poursuivi les croyants, qui avait abrogé donc la foi catholique et poursuivi les croyants, créant des désordres innombrables en France. Napoléon, donc, a la force, l'intelligence et la force politique donc, de signer le Concordat, qui est une espèce de paix entre l'État et l'Église. Voilà. Et donc l'épisode que vous avez cité tout à l'heure s'inscrit dans cette discussion difficile qu'il a menée pendant une grande partie de sa carrière avec l'Église de Rome, qui n'était pas non plus très encline à laisser d'abord le pouvoir napoléonien se mettre en place et ensuite une Église française se constituer.
Alors, le film de Louis Lumière, c'est le premier d'une longue série, puisqu'on a répertorié, je crois que c'est Jean Tullard, historien du cinéma, qui a répertorié 700 films de cinéma et 350 téléfilms. C'est oui, étonnant. Oui. Et je crois que le film qui demeure le plus mythique, c'est celui-ci.
«
Le Napoléon d'Abel Gance, tourné en 27, et restauré, et qui est en train d'être restauré.
Absolument, absolument.
C'était un monument, c'est un film qui a révolutionné le cinéma.
Oui, c'est un film qui a révolutionné le cinéma, qui a d'ailleurs été en partie tourné dans les rues d'Ajaccio. Et j'ai connu des gens, des vieux Ajacciens, qui avaient joué comme figurants dans ce film. C'est un film tout à fait prodigieux, en effet, où l'on voit cette incroyable force, au fond, qui habitait Napoléon, cette force qui lui a permis, au fond, de prendre le pouvoir, mais aussi de transformer si profondément la France, et au-delà de la France, l'Europe. Et on peut dire que c'est une et puis ce destin extraordinaire, parti, on peut dire, de quasiment rien, au fin fond d'Ajaccio, 4000 habitants à l'époque, et devenir donc l'homme le plus puissant de son temps avant de terminer sur le sacrifice de Sainte-Hélène.
Alors, il se trouve qu'au départ, Abel Gance voulait tourner 8 films sur Napoléon, et pour des questions financières, il a tourné que le Napoléon à Austerlitz 40 ans plus tard.
Oui.
Alors, il y avait un interprète, Albert de Dieudonné, qui est devenu fou. De Dieudonné, il a tourné le rôle de Napoléon, et il a vécu que pour Napoléon, et il est enterré avec le costume de Napoléon.
Oui, oui. Mais j'ai connu... J'ai connu des gens qui ont été pris, au fond, par des gens vivants actuellement, qui ont été pris par la folie de Napoléon. Je cite dans mon livre un homme, il y avait dans la maison de mon père à Paris, la reproduction d'une des grandes toiles de David qui représente donc le Napoléon sur le Saint-Bernard. On le voit dressé sur son cheval qui monte donc au col du Saint-Bernard. Et donc il y avait ça à l'entrée de la maison de mon père, et je me souviens avoir vu un homme au garde à vous le matin quand nous sommes partis à l'école, et quand nous sommes revenus à midi, il était toujours là au garde à vous. Et alors c'est très amusant parce que, je vais citer une anecdote, il se trouve que j'ai signé un de mes livres précédents à côté de Boris Cyrulnik, et je lui ai cité cette anecdote, je lui ai dit voilà des choses étonnantes que j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Et il m'a dit, vous savez, c'est incroyable ce que vous me dites, parce que je connais cette personne et je l'ai soignée.
C'est fou, hein. Alors, moi, j'ai connu un animateur de télévision et de radio, Fabrice, oui, qui, lui, se prenait pour l'empereur. J'étais un de ses grenadiers à mes débuts. On avait à RTL, pour ne pas le cacher, créé un syndicat bonapartiste autonome. On prenait les panneaux de la CGT. On avait demandé que le paiement des salaires soit en Napoléon et que la façade soit refaite en pire. Et chaque fois qu'il arrivait dans un restaurant, les gens se levaient et criaient « Vive l'empereur !» Mais c'est un phénomène parce que tout le monde jouait le jeu.
Oui, c'est un mythe.
Alors, dans les comédiens qui ont interprété Napoléon, il y en a un qu'on a totalement oublié, c'est Émile Drin, qui a été celui qui a interprété le plus grand nombre de fois Napoléon à l'écran. 10 fois, je crois.
Oui, oui, oui.
Et Marlon Brando aussi, il a
fait. Marlon Brando, oui, bien sûr.
Alors, ce qui est étonnant aussi, et vous en parlez dans votre livre, c'est la liste des produits de consommation, des produits dérivés autour de Napoléon, Charles Bonaparte.
Oui, oui, oui. Oui, c'est une curiosité. C'est Jacques-Olivier Boudon qui enseigne l'histoire napoléonienne à la Sorbonne, qui en a fait la liste. Et on retrouve de tout. C'est un catalogue à la Prévert. On retrouve des marques de voitures, des marques de motos, des marques de préservatifs, des marques de sous-vêtements. Enfin, bon, voilà. Napoléon sert, on peut dire, de support à la consommation de masse. Donc, on peut dire, c'est un mythe.
Mmh. Oui, mais même à Las Vegas, un jour, vous avez vu et bu une bière Napoléon.
Oui. Mais vous savez... On pense que le monument napoléonien le plus visité, c'est les Invalides. C'est une erreur. Il ne passe que 1,3 million de touristes chaque année aux Invalides. Il y a à Las Vegas un lounge, Napoléon Lounge, dans lequel passent 30 millions de personnes chaque année. Et donc c'est là que j'ai en effet commandé une bière Napoléon.
Alors il y a aussi les collectionneurs fous et les faux Napoléon, parce qu'il y a des faux, il y a des tableaux, des objets. On a même un jour parlé du crâne Napoléon enfant, tout y est passé.
Oui, oui, oui. Oui, bah forcément, il y a beaucoup de faussaires dans cette année. C'est vrai que Napoléon, enfin les objets napoléoniens donnent lieu à un commerce extrêmement prospère. Il y a même des émissions de radio, sur la télévision, sur le sujet, des magazines, etc. Il y a beaucoup de collectionneurs, oui.
Comment on peut l'expliquer ?
Ben, je pense que ça reste un personnage de rêve, et donc les gens achètent des objets pour rêver d'une époque, pour rêver d'un personnage, pour s'identifier, souvent à ce rêve aussi. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des collectionneurs à l'autre bout du monde, en Chine, au Japon. Il y a des gens qui achètent des objets napoléoniens.
Oui, et puis il y a aussi les faux, dans les faux des canulars. Il y a un livre qui est sorti en 59 d'un certain François Valorbe, Napoléon et Paris, et il raconte le passage de Napoléon dans une communauté, la Trappe Suguinda, qui est l'anagramme de Attrape Nigo. Et ce livre, elle s'est vendu pendant quelques mois. Oui. Et il y a eu, je crois, 70 000 livres sur Napoléon, c'est énorme.
Oui, c'est Jean Tullard qui les a comptés. Il dit qu'il y a un livre qui est sorti depuis la mort de Napoléon. Donc, chaque jour, paraît un livre nouveau sur Napoléon.
Vous-même, vous en avez fait quatre.
Voilà, quatre jours.
Et quatre en quelques années, alors que vous êtes un autodidacte sur le sujet.
Oui, oui, absolument. Je ne suis pas historien de formation.
Voilà, mais en même temps, vous connaissiez un peu l'histoire de la famille.
En effet.
Ça n'a pas été facile à apprendre. On va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 8 juin 1997. À tout de suite sur Sud Radio avec Charles Bonaparte.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Charles Bonaparte. Il y a ce livre, La liberté Bonaparte chez Grasset, dont on commence à parler, on va parler. Et puis il y a une date, le 8 juin 1997. Et d'après mes recherches, c'est votre première télévision officielle, car vous annoncez la création d'une association de la promotion et de la défense de l'image de la Corse à la salle des congrès d'Ajaccio.
Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Je suis revenu en Corse, en fait, tardivement, et j'y suis venu parce que, à l'époque, j'étais fonctionnaire à la délégation à l'aménagement du territoire, et je me suis occupé, donc, du sud de la France, et en particulier de la Corse, et donc, j'ai repris, à ce moment-là, contact et des relations plus suivies avec le personnel politique et les interlocuteurs corses. Et, au fond, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que la Corse était une société très politique, dans laquelle le pouvoir politique joue un rôle considérable, ce qui est vrai parce qu'il est pourvoyeur d'emplois, mais dans laquelle les gens ont une confiance, à mon avis, déraisonnable dans la politique. Et donc, il me semblait qu'il manquait ce tissu, si vous voulez, de l'initiative personnelle et privée qui rend les gens responsables de leur destin. Et donc, la fonction de cette association, c'était précisément d'encourager les talents privés, on peut dire, des personnes, sur le plan économique, sur le plan culturel, historique, etc. Et donc, j'ai effectivement créé cette association.
Alors, en fait, c'est pas votre première télé, parce que la première, vous étiez beaucoup plus jeune, c'est chez vos parents, avec Georges Decaune, je crois.
Oui, quel souvenir, en effet, oui. Oui, Georges Decaune était venu tourner un film. Je me demande si c'était pas pour la préparation du bicentenaire de la naissance de Napoléon. Et donc, je me revois petit garçon avec mes parents dans cet univers. C'était à Prangin, dans ma famille, donc en Suisse. Et je me vois donc petit garçon pédaler sur mon vélo, être interrogé, etc., sur ce que je voulais faire dans l'avenir, etc.
Vous disiez vouloir être marin, je crois, à l'époque.
Oui, oui, oui. Oui. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque, oui, je voulais être marin, jambard, etc. Et bien sûr, bon, les choses ne sont pas du tout déroulées comme ça. Et alors, ce film passe de temps en temps, et il est passé, la dernière fois qu'il est passé en Corse, sur FR3 Corse, il y a des Ajacciennes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Vous étiez vraiment mignon à l'époque.
» Il faut savoir que Georges Decaune, bon, c'est le père d'Antoine Decaune, et la mère, c'est Jacqueline Joubert. Oui. Il a fait une chose étonnante. De 62 à 63, il s'est installé avec sa chienne Eder, un berger des Pyrénées, sur une île déserte des Marquises, où il faisait une communication tous les jours à la radio. C'était une des émissions les plus écoutées.
Et je m'en souviens, effectivement, oui.
Alors, vous êtes à l'époque de ce premier film chez vos parents, et votre père, Charles Bonaparte, était un aristocrate fortuné, au départ passionné de voitures et de sport.
Oui, tout à fait. Mon père, en fait, mon grand-père, donc, le père de mon père, était marié avec la fille donc, du roi des Belges. Et donc, la famille, à l'époque, était exilée de France. Elle n'est rentrée d'exil d'ailleurs que très tardivement, en 1949, suite d'ailleurs au fait de guerre de mon père, à sa résistance. Et donc, jeune, il vivait la vie d'un fils de famille fortuné en Belgique, proche de la cour, si vous voulez, de Belgique. Et donc, ce n'était pas à proprement parler une personne qui fréquentait les salons, pas du tout, non, c'était un homme sportif qui faisait de l'automobile, du ski, etc.
Passionné aussi de Tour de France, je crois qu'il a reçu les coureurs du Tour de France 38 chez lui, à Prangin.
C'est exact, oui.
Tour de France gagné par Gino Bartali, où il y a eu les adieux à la dernière étape d'Antonin Magne et de André Le Duc, qui était un des grands champions du Tour de France.
Oui, tout à fait.
Et ça, ça fait partie des souvenirs. Un Napoléon qui reçoit le Tour de France, c'était pas évident.
Non, c'était pas évident. C'est une forme de rupture aussi, d'une certaine façon. C'est sortir, disons, de la norme de l'époque.
Et alors, vous parliez justement de la résistance. Je crois que votre père s'est engagé sous un nom d'emprunt dans la Légion étrangère avant d'entrer dans la résistance.
Tout à fait, oui.
Ça faisait partie des choses importantes de la famille.
Oui, en effet, oui, c'est tout à fait remarquable, d'autant plus qu'il avait cherché à se... lors de la déclaration de la guerre, il avait cherché à... La famille était donc exilée, et il avait cherché à servir dans l'armée française sous son nom. Et puis, le gouvernement le lui avait refusé.
Ah bon ?
Donc, oui. Et donc, il avait servi dans la Légion pour pouvoir utiliser justement un nom d'emprunt.
Et je crois qu'il a refusé de participer à une cérémonie à laquelle Hitler tenait beaucoup.
Oui, c'est le rapatriement des cendres de l'Aiglon. Les Parisiens disaient on a froid et les Allemands ne nous apportent que des cendres. Et donc, effectivement, c'était une cérémonie par laquelle Hitler pensait pouvoir flatter l'orgueil des Français. En réalité, ce fut un flop parce qu'il y avait très, très peu de monde. Et mon père, bien entendu, s'est abstenu de participer à la cérémonie aux Invalides.
Alors, vous avez grandi dans un univers où il n'y avait pas les dignités impériales, mais il y avait quand même les souvenirs. Notamment, je crois qu'il y avait l'épée de Napoléon qui était à la maison.
Oui, il y avait... Il y avait l'épée de Marengo et beaucoup d'autres souvenirs. Oui, c'était un musée, si vous voulez, aussi bien à Paris que dans la maison de mes parents en Suisse. Mon enfance s'est déroulée dans un véritable musée napoléonien.
D'accord. Vous vous êtes demandé un jour pourquoi Napoléon ne venait pas chercher son épée.
Oui, si vous voulez, l'enfant se pose nécessairement la question du rapport entre sa vie et puis ce qui l'entoure.
En même temps, votre père ne vous expliquait pas vraiment l'héritage napoléonien, Charles Bonaparte.
Oui, dans les familles aristocratiques, disons, de l'époque, la transmission des valeurs allait de soi, en quelque sorte. Et donc, il n'était pas besoin de l'expliquer. Mais il se trouve qu'il y avait une telle distance entre la réalité de ce que je vivais au quotidien, à l'école d'abord, et ce que je vivais chez moi, que la question s'est très vite posée, de savoir, au fond, qu'est-ce que ça signifie, tout ça. Pour mon père, c'était évident. Pour moi, c'était beaucoup plus difficile.
Et comment avez-vous fait ? Vous avez tout appris ? Vous avez tout lu ?
Non. Je suis parti chez moi pour pouvoir résoudre cette contradiction. Et j'ai vécu ma propre vie. Et j'ai fait mon propre chemin, j'ai suivi ma propre carrière, et donc je n'ai retrouvé l'histoire napoléonienne que d'une certaine manière beaucoup plus tard.
Mais en l'apprenant, en la découvrant, et même en le racontant dans ce livre.
Oui, à un moment, il m'a semblé important, de faire quelque chose de cet héritage. Nous héritons tous de quelque chose. Cette question est posée finalement à tous les successeurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur classe sociale, de savoir ce qu'ils font de l'héritage qu'ils auraient légué par leur famille et leurs parents. Et donc cet héritage, il me semble que pour qu'il soit correctement reproduit, il doit faire l'objet d'un inventaire. Au fond, il y a un droit d'inventaire aux héritiers. On ne devient héritier que lorsqu'on a fait cet inventaire. C'est-à-dire qu'est-ce qui est conforme à ce que vous adoptez, à vos valeurs, à votre mode de vie, et qu'est-ce qui doit être abandonné au bord de l'histoire.
Alors, il y a un autre autodidacte de Napoléon qui, lui, a eu du succès grâce à une comédie musicale.
Mal fringué dans ma peau pas bien, j'étais bande à part et boudeur, je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléon,
Serge Lama. Vous l'avez vu, bien sûr, cette comédie musicale.
Oui, bien sûr.
Et c'est étonnant parce que quand il a voulu l'écrire, parce qu'il avait une ressemblance avec Bonaparte,
c'est vrai.
Personne n'a cru à ce spectacle.
Oui, c'est vrai.
Et il l'a joué, je crois, 527 fois à Paris et beaucoup en tournée.
Oui. Et il a imposé, on peut dire, à l'opinion publique. Oui.
Et moi, je me souviens d'un jour où je suis allé en Corse pour un reportage et il était là, à Ajaccio, où il a reçu la médaille de la ville. Je ne sais pas si vous étiez présent.
Non, je n'étais pas présent, mais... Oui.
Et il avait été accueilli par l'Ajaccienne. Et chaque fois d'ailleurs que votre famille arrivait en Corse, c'était l'Ajaccienne.
On arrivait en bateau, je me souviens. Et donc il y avait le matin, au petit matin, donc, les grognards napoléoniens qui jouaient l'Ajaccienne à la passerelle du bateau.
Alors, dans l'inventaire familial que vous avez établi et que vous évoquez dans ce livre, Charles Bonaparte, il y a les autres Napoléon. Il y a d'abord Lucien, le frère cadet, qui était très important dans la vie de Napoléon.
Ben oui, il a joué un rôle fondamental à un moment absolument clé, qui est le coup d'État de Brumaire, si vous voulez, à cette époque-là. Il a sauvé son frère, il a permis au fond au coup d'État de se dérouler, et donc à Napoléon, au général Bonaparte, de devenir premier consul. C'est un homme qui est toujours resté fidèle au principe de la Révolution, ce qui lui a valu beaucoup de difficultés dans ses rapports avec Napoléon.
Oui, et finalement, il a été là même après Waterloo pour défendre son frère.
Alors ça, c'est le sens de la famille corse, on peut dire, hein. On se bagarre, on n'est pas d'accord, mais en définitive, la famille s'impose à tous. Et donc, il vient lorsque son frère est dans la difficulté.
Et d'ailleurs, son frère a abdiqué. Et au départ, Lucien était persuadé que Napoléon allait partir aux États-Unis avec lui, Charles Bonaparte.
Alors, c'est Joseph qui pensait ça, en réalité, c'est pas Lucien. Donc, Joseph est parti, effectivement. La question, au moment, donc, de au moment où Napoléon abdique, après Waterloo, il ne sait pas. Il est perdu pendant quelques jours. Il ne sait pas où il doit aller. Et donc, il échafaude avec son frère Joseph le plan de partir tout simplement en Amérique, vivre en Amérique. L'Amérique, c'était une sorte de paradis pour ces fils de la Révolution de 89. C'était une terre nouvelle, une terre républicaine. Et donc, il était prêt, d'une certaine manière, à refaire sa vie avec Joseph en Amérique. Et puis, il a petit à petit réalisé qu'il avait encore quelque chose à faire, c'était assumer, au fond, son histoire, assumer son destin, et donc se rendre aux Anglais pour... Il pensait d'ailleurs à l'époque que les Anglais allaient bien le traiter, le recevraient en Angleterre, et admettraient qu'il soit un citoyen comme un autre, ce qui était évidemment une grande illusion, mais ce qui en dit long sur la manière dont Napoléon concevait ses adversaires. Et tel n'a pas été le cas, et donc il a été envoyé donc à Sainte-Hélène. Et il a souvent regretté d'ailleurs de ne pas être parti en Amérique.
Et le premier voyage d'ailleurs qu'il a fait vers l'île d'Elbe, moi je suis allé il n'y a pas longtemps sur l'île d'Aix qui est près de La Rochelle, et il y a un hôtel où Napoléon a dormi une nuit.
Oui, tout à fait, il y a un très beau musée d'ailleurs à Aix, c'est un joli petit musée, oui.
Alors il y a Napoléon, et puis il y a eu Napoléon III, il ne faut pas l'oublier, qui a été important aussi dans la famille des Napoléons et des Bonaparte.
Oui, il a relevé des défis d'une nature totalement différente, qui étaient plus des défis d'ordre sociaux, on peut dire, et économiques. Il a été confronté à la guerre, puisqu'il est, on peut dire, il a chuté sur la guerre de 70, mais son gouvernement était avant tout un gouvernement de développement économique et social.
Voilà. Il avait un demi-frère, le duc de Morny, qui a créé la ville du Vésinet, mais aussi Deauville. Un jour, il a vu un bassin, il a dit « là, je vais faire une ville », c'est devenu la station balnéaire. Oui. Et puis, il y avait autour de Napoléon III un certain Plomplon.
Ah oui. Alors Plomplon, effectivement, ça c'est un ancêtre direct, si vous voulez, voilà. Qui descend de Jérôme. Donc c'est mon arrière-grand-père, le fils donc de Jérôme, frère cadet de Napoléon, qui est un personnage qui a joué un petit peu auprès de Napoléon III le même rôle que Lucien auprès de Napoléon. C'est-à-dire que c'était un homme qui était resté très fidèle aux idéaux révolutionnaires et aux idées de la République. Et donc il a contesté le coup d'État qui en 1852 a transformé donc la seconde République en second empire.
Et puis, il s'est occupé de la publication de la correspondance de Napoléon Ier. Oui. On n'imagine pas ce que c'était. Il y a eu 32 volumes.
Oui, c'était un ouvrage considérable. Il y avait au moins 30 000 lettres. Et c'était en même temps une action très, très politique, parce qu'il s'agissait aussi de choisir les lettres qui étaient conformes, on peut dire, à la doctrine officielle, au regard que l'empereur portait sur son ancêtre.
Tout cela avait pu être conservé.
La correspondance officielle était conservée aux archives, et puis on avait commencé la recension d'archives privées.
Et puis, il y a un monument qu'il a inauguré, dédié à Napoléon, en 1865. Et ce monument est maintenant tourné vers la mer, Charles Bonaparte.
Ah oui. Oui, en effet, c'est le monument qui représente à Ajaccio Napoléon, donc à cheval, avec ses quatre frères, donc à chacun des angles du carré. Et donc, il était à l'origine... tourné vers la mer, offrant en quelque sorte son arrière à la ville d'Ajaccio. Et donc, on l'a effectivement retourné dans l'autre sens, de manière à ce que la tête du cheval, la tête de l'empereur, soit cette fois-ci orientée vers la ville, et que le reste soit orienté vers la mer.
Et finalement, bon, vous êtes apparenté à la grande aristocratie européenne. Vous n'en faites pas partie, Charles Bonaparte ?
Bah, écoutez, j'en fais probablement partie par le sang, je ne le nie pas, mais culturellement et pas par mon mode de vie, non, pas du tout.
Voilà, et on va en reparler d'ailleurs dans quelques instants à travers ce livre, La liberté Bonaparte, que vous sortez chez Grasset. On en parle avec une autre date, le 17 mars 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Charles Bonaparte.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Charles Bonaparte. 17 mars, sortie de La liberté Bonaparte chez Grasset. Un livre où vous racontez votre famille et surtout, vous n'êtes plus Charles Napoléon, mais Charles Bonaparte, car vous avez longtemps été Charles Napoléon.
Oui, je suis né effectivement Charles Napoléon. Et puis les circonstances de la vie m'ont conduit donc à opter pour le nom de Bonaparte. On voit bien la distinction symbolique, en tout cas, qu'il y a entre les deux. Bonaparte, on peut dire que c'est le général de la Révolution et l'homme du consulat. Napoléon, c'est plus l'homme de l'Empire. Donc ce sont deux versants, bien entendu, du même personnage. On peut dire que dans Napoléon, il y a Bonaparte, et réciproquement, dans Bonaparte, il y a le futur Napoléon. Mais ça marque tout de même un regard particulier, qui est mon regard sur la nature de cet héritage. Alors, je l'ai fait à la suite de circonstances familiales que j'explique dans mon livre. Et au fond, je me sens beaucoup mieux, parce que ça me paraît beaucoup plus conforme à mes valeurs personnelles, à mon mode de vie, à la façon dont je parle aux gens, dont je m'entretiens et au rapport que j'ai avec les gens.
Alors, en même temps, c'est une façon de jouer la carte du renouveau des Bonaparte.
Oui, parce que je crois que c'est une famille qui porte intrinsèquement l'idée de progrès. Au fond, quand on regarde la situation dans laquelle se trouvait la France au lendemain de la Révolution, il fallait tout reconstruire. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui, dans des sociétés aussi policées que les nôtres, de ce que pouvait être la France au sortir de la Révolution, dans un état de désordre intérieur très considérable. La question religieuse, on en a parlé tout à l'heure, les invasions, les menaces que faisaient peser les invasions étrangères, un climat de guerre civile, bref, c'était un très très grand désordre. Et donc Napoléon est arrivé au pouvoir. Alors bien sûr, le coup d'État de Brumaire, c'est un coup d'État, c'est au fond un général qui prend le pouvoir et qui prend la primauté sur le pouvoir civil. D'ailleurs, l'abbé Sieyès avait fait venir Napoléon dans cette idée. Mais ce général ne cherche pas à revenir en arrière. C'est tout sauf une restauration. C'est pas la restauration de l'ordre ancien. C'est comment construire un ordre nouveau sur les brisés et sur les conquêtes aussi de la Révolution. Et donc c'est un homme qui est saisi d'une situation radicalement nouvelle, celle de cette France post-révolutionnaire, et qui applique les méthodes du siècle, hein, très largement inspirées des principes de la Révolution et des idéaux du siècle des Lumières. Alors bien entendu, tout n'est pas noir et blanc. Je veux dire par là que son gouvernement a été marqué par des conquêtes remarquables. On parle du code civil, c'est formidable le code civil, c'est la famille et la propriété privée, c'est les bases, on peut dire, d'un État. On parlait tout à l'heure du concordat, on pourrait parler du cadastre, si vous voulez, vraiment des bases, ces masses de granit au fond de la société française. Mais en même temps, il a restauré l'Empire. Donc on peut dire il est aussi quelque part tiré vers le passé. Et ça, c'est le propre du mouvement de l'histoire. Le mouvement de l'histoire n'est jamais d'un côté ou d'un autre.
Et vous dites d'ailleurs, Charles Bonaparte, qu'il y a un modèle du Napoléon d'aujourd'hui, ce sont les Kennedy.
Oui, je pourrais le dire. En effet, ce sont des réformistes, au fond. Ce sont des gens qui prennent à bras-le-corps la question des sociétés contemporaines et qui cherchent à projeter les gens vers le futur et qui cherchent à tirer d'eux le meilleur. Et je pense que ce sont... Je ne suis pas du tout bonapartiste, mais je pense que ce sont des modèles politiques intéressants pour les temps actuels.
Et puis le mot « liberté », qui est celui du titre de votre livre, est important pour vous, Charles Bonaparte ?
Il est important pour moi parce que je crois qu'il n'y a pas de progrès sans liberté individuelle et sans liberté collective. Et puis, ça a été aussi mon propre chemin. C'est un chemin de liberté, de libération personnelle qui m'a fait partir d'une situation où j'étais très marqué, on peut dire, par le sceau de la famille et où j'ai petit à petit évolué vers quelque chose que je considère comme au moins un début, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de réalisation de moi-même.
Oui, parce que vos jeunes années à l'école, c'était pas facile. Au lieu d'aller avec vos copains, il y avait un chauffeur qui venait vous chercher dans une voiture tous les jours à la sortie d'école. Et un chauffeur en livrée, un valet. Et l'immatriculation, c'était 1JK75, qu'à l'époque, on choisissait ces immatriculations.
Parfaitement. Et c'était le numéro 1 était réservé aux gens connus, si on peut dire, hein, en effet.
Et c'est pas comme ça qu'on se fait des copains à l'école.
Non, c'est pas comme ça qu'on se fait des copains. Et surtout, c'est pas comme ça qu'on rentre dans des relations saines avec les gens.
Et puis ensuite, il y a eu le pensionnat, et là, ça a été 6 ans de cauchemar pour vous.
Oui, c'est ça. J'étais envoyé dans un pensionnat, comme c'était assez fréquent à l'époque. Mais c'est un pensionnat où on peut dire les qui était marqué par les principes, des principes formels, si vous voulez, qui ne permettent pas au fond à un jeune de se développer.
Mais c'était lié à la famille et à vos parents qui avaient décidé, à votre mère qui avait décidé que c'était dans la lignée des familiales aristocratiques.
Oui, mais si vous voulez, à cette époque, les générations considéraient qu'il était de leur devoir de reproduire les choses telles qu'ils en avaient hérité. Il n'y avait pas vraiment de réflexion par rapport à l'évolution du monde. Et moi, je me suis trouvé devant ce problème d'avoir, si vous voulez, en quelque sorte un héritage ou un projet d'héritage qui était en total décalage avec mon expérience de vie. Donc, il a fallu rattraper ce retard et concevoir autre chose.
Et puis, un des premiers livres qui vous est marqué, ce sont les mémoires de De Gaulle, parce que c'est l'homme qui a dit non.
Absolument, c'est tout à fait juste. Je me souviens, c'était dans la collection Verte, je ne sais plus quelle était la maison d'édition à l'époque, et c'était un des premiers livres que j'ai lu, en effet, qui était une biographie du général De Gaulle. Effectivement, cet homme qui savait dire non, ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'il a su dire non dans un premier temps, pour dire oui ensuite, et pour construire évidemment la France moderne.
On imagine une rencontre entre Napoléon et De Gaulle, ça aurait pu être éteint. Ah,
ils auraient pu se rencontrer en réalité, parce que il y a dans Napoléon le sens de l'État, le sens de la nation, le sens de l'intérêt général, le sens de la construction d'un État moderne qui a également habité De Gaulle. Et on peut dire que De Gaulle, d'une certaine manière, c'était un successeur lointain de Napoléon.
Et puis vous avez aussi lu Dumas. Et Dumas, il faut le savoir, a créé au Théâtre de l'Odéon, le 10 janvier 1831, Napoléon Bonaparte ou 30 ans l'histoire de France.
Oui, tout à fait. Alors, il y a Dumas, et puis il y a le père de Dumas, qui était général de oui. l'Empire, et qui était un général mulâtre. C'était le seul général mulâtre de l'armée française. Ce qui lui a valu, d'ailleurs, de ne pas pouvoir faire la carrière auquel il aurait pu prétendre. Hein. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, le père Dumas.
Et puis, Charles Bonaparte, vous avez aussi fait 1068, c'est-à-dire que de l'Odéon de Dumas, vous êtes passé l'Odéon occupé.
Tout court, oui. Oui, en effet, oui, j'ai fait partie de cette génération, j'avais donc 18 ans en mai 68, puisque je suis né en 50, qui a été interpellé, traversé, on peut dire, par les idéaux de mai 68. Ça a été quelque chose de très fort, c'est au fond les idéaux de la société rejoignaient au fond mes propres questionnements, si vous voulez, sur la question de la liberté individuelle, sur la question aussi de la révolte contre un ordre établi qui faisait sentir ses règles, etc.
Ça ne devait pas plaire à la famille, ça ?
Non, ça n'a pas beaucoup plu. Je n'ai pas eu beaucoup de succès. Mais ça a été pour moi une étape fondatrice qui m'a permis de, J'ai quitté ma famille, d'ailleurs, à la suite de ça, et j'ai fait ma propre vie.
Mais vous avez une particularité, c'est-à-dire que vous êtes l'un des rares à ne pas avoir eu le bac en 68, alors qu'on le donnait pratiquement.
Oui, mon engagement était si loin qu'en effet, je n'ai pas eu mon bac en 68. Il fallait vraiment le faire.
Oui, parce que je crois qu'il y a eu 10% de non-reçus.
Oh, même beaucoup moins que
beaucoup
ça.
Beaucoup moins que ça. Et donc, vous avez ensuite été à Chambéry, au lycée Vaugelas. Oui. Et puis un soir, vous avez fini au commissariat à cause de cette chanson. Alors, Charles Bonaparte, à cause de Bob Dylan, se retrouve dans un commissariat, c'est assez cocasse.
Oui, en effet, oui, Bob Dylan, oui, quel personnage extraordinaire, quelle musique, quelle inspiration. Et en effet, oui, on jouait Bob Dylan, je crois que c'était au sortir de la gare de Chambéry, et donc une patrouille de police, appelée probablement par des voisins, nous ont amenés jusqu'au commissariat. Voilà. Oh, ça n'a pas duré bien longtemps, on était libérés, parce que j'étais pensionnaire à l'époque au lycée, et donc ils ont appelé le proviseur qui est venu me chercher et m'a ramené.
Et puis donc vous avez fait ensuite votre vie d'ingénieur consultant dans différents pays, en Afrique, au Moyen-Orient, en France. Vous avez été administrateur de programme des Nations Unies. Ça a été un monde tout à fait différent, un monde parfois bureaucratique et pas simple à vivre, Charles Bonaparte.
Oui, c'est moi. J'ai travaillé comme ingénieur conseil. J'ai plusieurs années en Afrique. C'était un travail en même temps passionnant et en même temps frustrant. Lorsque j'étais ingénieur, j'ai fait des travaux en direct, si vous voulez, sur des projets. Administrateur des Nations Unies, c'est un peu plus compliqué. Il y a des côtés un peu bureaucratiques. Mais la leçon que j'en tire, c'est que probablement ce que nous avons mis en place, donc c'est après la décolonisation, on est dans les années 70-80, n'était probablement pas ce qu'il aurait fallu faire. Et quand on voit, en effet, l'Afrique aujourd'hui, la problématique des migrants, etc., on s'aperçoit que c'est probablement pas ça qu'il aurait fallu faire.
Oui, il y a un domaine où vous avez réussi, c'est quand on achetait du cacao aux petits producteurs. Aujourd'hui, c'est devenu une tradition, puisque le cacao est devenu la base du chocolat, qui est un produit typiquement français.
Ah oui, tout
ça,
à fait.
Ça marche très très bien.
Ça marche très bien.
Alors, un jour, Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur, vous a appelé et vous a chargé d'un dossier corse.
Oui, Gaston Defferre m'a appelé ses interlocuteurs. Je le connaissais bien, et donc il m'a appelé, il m'a dit, écoute, voilà, je voudrais que tu t'occupes du dossier Corse. Et c'est à ce moment-là, à l'époque, j'étais chargé de mission à la délégation à l'aménagement du territoire, et c'est à ce moment-là que j'ai effectivement commencé à reprendre contact avec la Corse.
Et vous avez été élu aux élections municipales, à votre grande surprise finalement, Charles Bonaparte.
À ma grande surprise, mais après beaucoup d'efforts. Donc j'ai fait deux campagnes électorales, j'ai eu presque 13% des voix, on a fait une alliance donc avec... deux listes de gauche, une liste social-démocrate et la liste de l'Union de la gauche. Et donc, nous avons été élus deux municipalités de suite à Ajaccio.
Et vous avez découvert effectivement les coulisses de l'administration, de la mairie, de tout ce qui peut se passer.
Oui, c'est pas toujours très satisfaisant, loin, et encore, c'est un euphémisme. Je n'y suis pas resté, j'aurais pu continuer et m'y représenter, parce que je crois qu'il n'y a pas que la politique municipale. Je crois que le changement des sociétés passe aussi par des initiatives personnelles, privées, dans le domaine culturel.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous évoquez des idées pour un projet de réforme constitutionnelle.
Oui, en effet, oui, je parle effectivement de... Je suis partisan, pour ma part, d'un vrai régime présidentiel, équilibré par davantage de pouvoir aux assemblées et une très forte dose de décentralisation.
Mais ça, c'est juste théorique pour vous. Il n'est pas question de vous lancer un jour dans la politique, Charles Bonaparte.
Non, je aujourd'hui, si vous voulez, les vrais changements, ce sont des changements dans la société. Et donc, je suis dans le village où j'habite, et ici à Paris, je suis membre d'association. J'ai créé une fédération européenne des villes d'histoire napoléonienne, qui est un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Je pense que la question de l'Europe, par exemple, au travers de la culture historique, est très importante.
Il va y avoir sans doute beaucoup de livres sur Bonaparte ou Napoléon. Le vôtre est très complet, il raconte la famille telle qu'elle était et ce que vous êtes. Ça s'appelle La liberté Bonaparte chez Grasset. Je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent. S'ils aiment Napoléon, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se passionnent pour Napoléon.
Je vous remercie.
Merci à vous d'avoir participé à ces Clés d'une vie. C'est terminé pour aujourd'hui. Les Clés d'une vie, on se retrouve bientôt. Et restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.